Bienvenue dans Savarma, le podcast qui discute équité des sexes. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Savarma. Aujourd'hui, on attaque la première émission d'une, je l'espère, longue liste, où je donne la parole à des femmes pour qu'elles nous racontent les difficultés sexistes qu'elles rencontrent dans leur milieu professionnel. Et on commence aujourd'hui avec l'interview de Anna, qui vient nous parler des difficultés qu'elle a rencontrées dans le monde journalistique. Bonjour Anna, merci de venir témoigner dans Savarma.
Bonjour Laura.
Aujourd'hui, je t'accueille pour que tu nous parles des difficultés que tu as rencontrées dans le monde journalistique. Déjà, est-ce que tu peux te présenter ?
Déjà, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Donc, je suis étudiante à l'école de journalisme de Tours, auteur et technicienne en environnement. J'ai décidé du coup, suite à un voyage en fait en Nouvelle-Zélande, de m'orienter vers le journalisme parce que quand j'étais là-bas, j'ai mené pas mal d'interviews, de recherches et d'enregistrements. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait au-delà en fait d'un simple intérêt amateur. Et du coup, là, actuellement, je vais faire ma rentrée la semaine prochaine.
En école de journalisme, du coup.
C'est ça.
Alors, quelle est toi ton évolution en fait avec la pensée féministe ?
Alors du coup, ça c'est une grosse question. En fait, je pense que, en gros, déjà ado, j'étais pas forcément... Je m'intéressais pas du tout au féminisme. Je m'intéressais pas forcément au féminisme, donc quand j'étais ado, j'avais pas forcément d'idée concrète de ce que ça pouvait signifier. Et puis, on va dire que j'étais dans un environnement plutôt protecteur, assez enrobant, donc avec des groupes de filles majoritairement, et j'avais pas rencontré en fait de problèmes liés à ma condition de femme. Et c'est vraiment en fait quand je suis rentrée dans le monde du travail, entre guillemets, que j'ai commencé à ressentir ces inégalités, c'est-à-dire dès mes 18 ans, quand on fait des petits boulots, qu'on fait des stages et qu'on se confronte vraiment au monde des hommes et au système patriarcal, qu'on se rend compte de ces inégalités-là. Et puis à ce moment-là, il n'y avait pas forcément beaucoup de... Comment dire ? Il n'y avait pas cet élan en fait qu'il y a depuis la 2017 qui pousse les femmes à s'affirmer avec l'affaire MeToo, l'affaire Weinstein. Je trouve à l'époque que j'étais encore très fermée sur ça, sur le féminisme. J'avais pas forcément d'amis féministes, je faisais pas partie de groupes féministes. Et du coup, c'est vrai qu'on se dit à ce moment-là, en gros, ce que je vis, c'est pas très important, c'est pas très grave, je vais pas en parler, je vais rester... je vais rien dire, quoi. Ça passera, je vais ingérer le truc et puis je vais oublier assez rapidement. En fait. Et après, le deuxième choc féministe vraiment que j'ai eu, ça remonte à pas si longtemps que ça, c'était donc il y a environ un an et demi. Donc quand j'ai fait mon voyage en Nouvelle-Zélande et que j'ai vécu donc, dans cette communauté maori qui s'appelle Pariaka, qui est au sud... ouest de l'île du nord de Nouvelle-Zélande. J'ai vécu dans une communauté qui est basée sur un modèle matriarcal. Donc c'est la première fois que j'ai rencontré ce modèle-là. C'est-à-dire que les femmes ont un rôle extrêmement important parce que c'est elles qui ont le pouvoir donc décisionnaire dans la communauté, c'est elles qui ont le pouvoir de parole, elles représentent aussi l'image de la communauté. Donc j'ai rencontré celle qu'on peut considérer comme la gardienne entre guillemets de la communauté qui s'appelle Mata Farekoa, si je dis pas de bêtises, et qui m'a amenée dans son quotidien. Et c'est une femme qui accueille aussi donc des groupes touristiques dans la communauté, et donc ça veut dire qu'elles ont créé leur propre système touristique qu'elles gèrent elles-mêmes. Donc il n'y a pas de structure au milieu, il n'y a pas de biais au milieu de leur propre petite entreprise, entre guillemets. Et elles sont d'autant plus légitimes parce que c'est elles qui transmettent leur savoir et leur culture. Et c'est un savoir, une culture et des croyances qu'elles appliquent au quotidien. J'étais hyper inspirée et aussi très impressionnée parce que c'est des femmes très fortes, c'est des femmes très autonomes, c'est des femmes qui n'ont pas forcément peur de dire ce qu'elles ont à dire, qui ne vont pas hésiter à foncer dans le tas s'il y a besoin, quoi. Et je me suis surprise quand j'étais dans cette communauté à me rendre compte que j'étais tellement habituée au système patriarcal. Je me suis dit quelle place j'aurais dans une communauté comme ça, moi, par exemple, en tant que femme, comment je ferais en fait Est-ce que ça me conviendrait vraiment? Et du coup, c'est là qu'on voit à quel point on est conditionné, c'est-à-dire on est tellement habitué à être dans un milieu d'hommes que quand on se retrouve vraiment dans un milieu de femmes, on ne sait plus. On ne sait plus quelle est notre place, ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on va être en compétition avec les autres femmes? Est-ce qu'on va se sentir bien? Est-ce qu'on va se sentir reconnue? Parce que d'habitude, moi, la reconnaissance, je l'ai en fait majoritairement des hommes et pas forcément des femmes. Donc voilà, ça pose plein de questions. Et ça a été vraiment le premier gros choc dans mon cheminement féministe. Et je suis un peu longue. Mais du coup, à mon retour en tant que... Enfin, j'étais vraiment une femme, j'étais plus une jeune fille. J'avais grandi, j'avais 21 ans, voilà, j'étais plus un bébé, quoi. Et j'ai commencé vraiment à me dire, voilà, c'est plus possible, je peux plus rester en fait là à faire comme si ça n'existait pas, à ne pas me rendre compte que effectivement je vis des situations qui sont complètement désagréables quoi, au quotidien. Et du coup, j'ai surtout réalisé qu'en fait il y avait un lien entre, il y avait une corrélation très importante entre ces schémas inégalitaires dans ma vie professionnelle et dans ma vie sentimentale, et que c'est des schémas qui vont être appliqués un peu inconsciemment. Enfin, on parle de sexisme intériorisé, mais je pense que ça t'en parlera plus tard dans un autre podcast, voilà. Du coup. Mais en gros, c'est une expérience de relation amoureuse qui a été assez compliquée, qui m'a fait me rendre compte qu'il fallait absolument que je casse en fait ces schémas que j'avais intégrés, que j'appliquais encore et qui étaient en fait au final qui me faisaient souffrir. Et en fait, ce schéma dont je parle, enfin pour ma part en tout cas, c'est celui d'une recherche d'un homme en position d'autorité, aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. Donc c'est-à-dire que vu que j'ai majoritairement évolué dans un milieu d'hommes, quand j'étais en formation environnementale, quand j'ai fait mes stages, quand j'ai travaillé, j'étais toujours entourée d'hommes. Et au final, c'était toujours, je me référais toujours à un homme qui était supérieur à moi. Et je reproduisais exactement la même chose dans ma vie sentimentale, c'est-à-dire un homme avec un statut social affirmé, avec une position économique supérieure à la mienne. Enfin voilà, en gros, qui était supérieur sur tous les plans par rapport à moi. Et ça, je le recherchais d'une certaine manière parce que c'est quelque chose que j'arrivais pas à trouver moi dans ma vie quotidienne, dans ce que je pouvais entreprendre au quotidien. Et c'est aussi par ce biais-là que je me suis vraiment intéressée au journalisme. C'est parce que le journalisme, d'une certaine manière, moi, ça m'apprend à reprendre le pouvoir, entre guillemets, sur ce que je vis, sur ce qui se passe, sur l'actualité. Et je pense que c'est ça, en fait, le principe du journalisme, c'est ça apprend à prendre le pouvoir, à prendre la parole, juste à s'affirmer, en fait, vraiment. Après, enfin, on parle de pouvoir, mais je dirais que c'est aussi surtout de la puissance. C'est-à-dire, enfin, le pouvoir, ça peut vite être malsain. Moi, c'est plus aussi une recherche de puissance au quotidien et qui ne découle pas d'un homme. Mm-hmm. Donc, ça serait en gros mon cheminement pour l'instant. mais voilà, il y a encore, je pense qu'il va y avoir encore beaucoup d'évolution, quoi, j'espère.
Dans ces schémas, on retrouve un peu les mythes aussi qu'on transmet à nos petites filles, du prince charmant qui viendra sur son grand cheval sauver la princesse ou que sais-je, qui est elle du coup en position d'infériorité par rapport à lui. Et pas très étonnant qu'on retrouve ces schémas à l'âge adulte aussi de recherche d'hommes puissants économiquement, physiquement aussi. Voilà, dans leur situation, quoi.
Complètement, non, mais là, c'est sûr que c'est... Après, on a tellement été habitués aussi à ça que... Bon, il y a une responsabilité personnelle, parce qu'après, on peut faire le choix aussi à un moment de se dire, bon, ça suffit, j'en ai marre de vivre des relations comme ça, il faut que je me débrouille pour faire en sorte que ça n'arrive plus, mais c'est possible peut-être dans la vie sentimentale, mais effectivement, dans la vie professionnelle, c'est beaucoup plus dur, parce qu'on va sans cesse se confronter à, en fait, des limites. À ce problème-là, qui, du fait qu'on soit dans un système patriarcal, comme je disais au début, Claire. C'est aussi l'engagement féministe, c'est assez récent. On va dire que je me suis retrouvée en difficulté, là, dans l'exercice de mon activité journalistique assez neuve. je me suis retrouvée en difficulté vraiment cette année, parce que j'ai bien vu que c'était pas évident de mettre en acte en fait son engagement féministe dans son activité professionnelle, c'est-à-dire faire en sorte que le travail qu'on mène soit autant reconnu que le travail d'un homme. J'ai plusieurs exemples pour ça. Donc il y a environ 2 semaines, donc j'ai participé à l'université d'été de Grenoble. Il y avait en fait 2 jours consacrés aux médias indépendants. Et donc c'est une université qui se dit plutôt ouverte, plutôt de gauche, plutôt basée sur l'égalité. Et dans les conférences dédiées aux médias indépendants, c'était que des hommes. Donc c'est-à-dire que genre bah, l'image... En gros, l'image du journalisme, il est homme, entre guillemets, donc il y avait très peu de femmes, voire... Enfin non, il n'y avait pas de femmes, et quelques-unes qui se sont exprimées dans le public, mais voilà, pas longtemps. Elles étaient sous-représentées, et on sentait bien qu'il y avait aussi une certaine difficulté, en fait, à s'exprimer. Donc déjà, ça c'est le premier point qui m'a dérangée, c'est qu'en fait, l'image médiatique des femmes, elle est pratiquement inexistante, ou elle existe, mais à travers des modèles bien définis. Mais voilà, on sent bien qu'il y a cette espèce de syndrome de l'imposteur, en fait, on n'est jamais assez légitime de faire ce qu'on est en train de faire. Je discutais avec une autre journaliste qui me disait qu'elle elle était dans une rédaction, que son rédacteur en chef était un homme et qu'elle ne le remettait jamais en question, alors que pourtant très souvent elle n'était pas d'accord forcément avec lui, mais parce qu'elle n'avait pas de puissance, de pouvoir entre guillemets par rapport à lui. Que c'est aussi un combat qu'elle essayait de mener dans sa vie, dans son activité, c'est-à-dire par exemple lorsqu'elle mène des micro-trottoirs et qu'elle interviewe des couples, elle essaie de faire en sorte que la femme parle autant que l'homme, sauf qu'elle se rend très bien compte qu'à chaque fois, c'est l'homme qui parle à la place de la femme, pour la femme, plus que la femme, mais voilà, il y a toujours cette domination, en fait, même au niveau de la parole. Donc ça, déjà, c'est un premier exemple qu'elle a rencontré, mais que moi, pendant mon activité, j'ai pu rencontrer aussi, ou des femmes carrément misogynes, qui vont me dire « mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous me posez des questions comme ça ?» C'est complètement déplacé, alors qu'en fait on a juste envie de donner plus de parole dans le débat public à des femmes, quoi.
Juste avant que enchaîne, oui. je rebondis quand tu disais tout à l'heure aux universités d'été sur les médias indépendants, dans la profession journalistique, il n'y avait que des hommes intervenants. Ça me paraît important de signaler que... Pour autant, la profession journalistique, elle est quand même bien représentée par les femmes.
Oui, donc c'est d'autant. C'est ça qui est assez contradictoire.
Voilà,
en fait.
C'est qu'on les a pas vues, alors pourtant elles y sont quelque part.
On a beaucoup de journalistes femmes, mais en fait, dans la parole qui va être délivrée sur qu'est-ce que c'est les médias, qu'est-ce que c'est le journalisme, enfin, tout en gros, cette pensée, une pensée journalistique qu'on va pouvoir développer, là, c'était des hommes vraiment. Et puis c'est vraiment. Enfin, moi, du moins, c'est la sensation que j'ai eue quand j'étais là-bas, c'est vraiment que. L'homme est le déteneur du savoir, quoi. Et ça, c'est un gros problème, en tant que femme, on va jamais être assez compétente, enfin, on va jamais se sentir assez compétente par rapport à un homme. Et il y a une femme qui est intervenue à la fin, du coup, de ce débat, qui a dit, c'est quand même fou, là, il n'y a aucune femme dans votre... dans les intervenants, quoi. Et il y a d'autres femmes à ce moment-là qui se sont levées, qui ont dit oui, mais c'est aussi parce que on se sent pas compétente, on se sent pas capable de le faire, on se sent pas en mesure d'intervenir, alors qu'elles-mêmes elles étaient journalistes, en fait. Donc c'est ça qui était dingue un peu pour moi. J'étais complètement sur le cul, on peut le dire.
On peut refaire le lien avec ce que Marlène Schiappa disait, c'est la présomption de compétence pour les hommes et la présomption d'incompétence pour les femmes.
C'est ça, ouais, voilà, c'est
qu'on va de fait les considérer plus incompétentes.
C'est ça.
Paraissait important de préciser que la profession journalistique n'est pas un milieu qu'on pourrait, par exemple, dire du bâtiment, ce genre de milieux qui sont très stéréotypiquement d'hommes. Là, pour le coup, il y a quand même une bonne proportion de femmes, ce qui est donc d'autant plus aberrant qu'on ne les trouve pas dans la prise de parole,
oui,
d'autant plus
ça,
que c'était leur métier.
Après, c'est vrai que moi, c'était... j'en fais pas une généralité non plus. Là, je parle de mon vécu, de mon expérience. Il s'avère que là, ça s'est passé comme ça. J'espère bien évidemment que c'est pas toujours le cas. Mais je me dis qu'il faut vraiment qu'on apprenne, en fait, à se déconstruire nous-mêmes. C'est-à-dire, effectivement, c'est pas les hommes qui vont venir nous chercher sur le terrain. Ça, c'est clair. Donc, c'est-à-dire vraiment se faire violence, presque, et se dire qu'on arrête de rester dans cette position-là. Et d'essayer de prendre la parole le plus possible, de remettre en question les hommes. Et c'est ce qu'a fait cette femme quand on était à la fin du débat, où elle leur a dit « mais vous avez invité personne, vous avez pas invité de femme, comment ça se fait, c'est pas normal. Et on s'est rendu compte que les hommes étaient complètement pris au dépourvu, en fait.
Ouais.
Face à cette question, ils se sont dit, oui, on a essayé, mais on n'a pas trouvé. Alors que non, enfin, ils auraient pu trouver. Il y a, comme tu le dis, il y a plein de femmes journalistes disponibles et qui seraient ravies, je pense, de participer à cette conférence. Mais voilà, il y a cette espèce de mince, on a oublié, quoi. Parce qu'en fait, on les a oubliés, quoi.
Ah, mince.
Donc ouais, déjà, il y a ce point-là. Et moi, ce que je disais sur l'image médiatique des femmes et à quel point elle est mal représentée, en tout cas à la télé, c'est que, à mes yeux, il y a deux modèles prédominants. Qui est donc le premier modèle que j'appellerais le modèle de la garçonne, donc c'est-à-dire une journaliste femme très intelligente, donc il n'y a pas de connotation péjorative dans ce que je dis là, va adopter un look plutôt sobre, voilà, une coupe à la garçonne, qui va pas mettre de maquillage, enfin qui va pas répondre au code dit féminin dans la société, qui va pas hésiter à foncer dans le tas, à écraser s'il faut écraser, à dire ce qu'elle a à dire, mais au dépend de être considérée comme une hystérique, une femme qui va déranger, etc., etc. Donc il y a ce premier modèle-là, et il y a le deuxième modèle qui, à l'inverse, je dirais, est le modèle de la belle plante, donc une femme qui est aussi très intelligente, mais qui va pas forcément le montrer, et qui va garder une image plutôt bienveillante, plutôt docile, plutôt douce, voilà, enfin qui s'adapte à ses interlocuteurs, etc., etc. Et en fait, moi j'ai grandi avec ces deux modèles-là de journalistes à la télé. Alors après, il y a bien sûr un peu des... Enfin, j'ai grossi les traits, il y a d'autres journalistes, bien sûr, que ce que je présente là. Mais voilà, pour moi, c'est quand même les modèles dominants. Et je me suis rendu compte, en fait, que ce que j'avais vu, moi-même, je le reproduisais dans une des émissions que j'ai menées avec l'association que je vous invite à aller consulter, qui s'appelle Interactive Media et qui est sur YouTube. Du coup, on fait des émissions et c'est super intéressant. Voilà, il n'y avait pas de modèle. Par exemple, on ne voit jamais de journaliste transsexuel, on ne voit jamais de journaliste lesbienne ou même homo. Enfin, du moins, il n'y a pas de cette diversité. La rue n'est pas représentée, en fait, aussi à la télé, quoi, tout simplement. Et du coup, quand j'ai mené cette émission pour donc Interactive Media, je me suis rendu compte que je m'adaptais donc aux intervenants, que je faisais en sorte que ça se passait bien, que j'étais plutôt dans la bienveillance, l'envie que voilà, tout se déroule au mieux. Et en fait, au fond, moi-même, j'en avais pas du tout envie, mais ça, je l'avais tellement intégré et vu, et c'était une injonction de le faire, parce que c'est aussi ce qu'on m'avait dit qu'il fallait que je fasse. Je me souviens très bien de du président de l'association qui m'avait dit, donc d'ailleurs je le salue s'il passe par là, qui m'avait dit « Je sais que tu sais, mais il faut que tu fasses comme si tu ne savais pas ». Ça veut dire que même si j'ai le même savoir que l'intervenant en face de moi, ou même peut-être un savoir supplémentaire, je ne peux pas en fait le remettre en question dans ses propres fondements, parce que je suis censée faire semblant, je suis censée scénariser, je suis censée jouer en fait. Et ça, pour moi, c'était pas du journalisme, parce que du coup on est dans l'acting, quoi, mais on n'est pas dans vraiment...
Oui, tu faisais l'animatrice.
Je fais l'animatrice, mais voilà, je me sentais pas journaliste à proprement parler. Et ça, je l'ai compris plus tard en revenant sur l'émission, en regardant, parce qu'en soi elle était bien construite, enfin je veux dire, il y avait des questions intéressantes, mais j'ai pas senti de... vraiment de débat journalistique. Mais ça aussi parce que je pense qu'on ne l'apprend pas en tant que petite fille, c'est-à-dire on ne nous apprend pas l'expérimentation du conflit. On nous apprend ça à rester dans la douceur.
Sage, douce, calme.
Voilà, ce gros cliché. Mais après, effectivement, il y a des familles où c'est plus... ça fait partie d'éducation, mais en tout cas, ça n'a pas été une part de mon éducation. On m'a pas appris à être dans le conflit, à rentrer dans le conflit. Et je pense que forcément, ça a des répercussions qui sont énormes sur le travail qu'on va mener dans notre vie au quotidien.
On peut faire là aussi le lien avec la revue encore sur la parité en politique, où Marlène Schiappa parle de ça, que finalement, faut aussi reconnaître que les femmes n'ont pas forcément envie d'aller en politique, parce que vu l'hostilité des combats politiques, c'est pas, ça se marie pas très bien avec l'éducation qu'on donne
mais
aux petites filles,
ça,
d'être calme, douce, gentille, tendre, etc. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'après ça laisse un peu que deux modèles qui mènent forcément à quelque chose de négatif. C'est soit tu as un modèle dit féminin, t'es une femme plutôt calme, douce, bienveillante, etc. Et à ce moment-là, t'es qualifiée de potiche, plante verte et de Miss Météo. Soit tu as, toi, acquis, ou par ton éducation, ou par ta vie, etc., des modèles dits plutôt masculins, et que t'es plutôt une nana qui va rentrer dans le truc, etc. Et effectivement, tu vas te retrouver affligée de stéréotypes du type t'es une camionneuse, t'es une bourrine, t'es un garçon manqué, quoi.
C'est toujours dans les deux extrêmes. Et justement, ce truc-là du conflit, je pense qu'en fait, qu'on peut vivre après là maintenant dans la sphère politique ou journalistique, en fait, elle se joue très tôt. Je pense à une géographe, il me semble, qui a fait une étude sur le genre et la mixité, qui s'appelle Edith Marouet-Jules, et qui parle de l'organisation de la cour de récréation, et qui explique bien donc que les garçons sont dans l'espace central et que les filles sont sur les bords et sur les côtés, et que c'est facile pour les garçons donc de sortir de l'espace central pour aller dans l'espace des filles, mais c'est beaucoup plus compliqué pour les filles de sortir de leur côté pour aller dans l'espace central. Et en fait, je trouve que ça, c'est une bonne métaphore pour ce qu'on vit au quotidien, c'est-à-dire qu'un homme, il va être plutôt facilement intégré dans un milieu de femmes. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de rejet quand un homme est rentré dans un milieu qui était plutôt féminin. Il n'y a jamais eu de rejet, ou j'ai jamais eu la sensation qu'il avait été rejeté. Par contre, quand une femme va aller dans un milieu d'hommes, là, ben forcément, elle va se confronter à un rejet ou des tensions, quoi, tout de suite. Et je crois que c'est ça aussi, on arrive un peu sur comment on fait pour contrer ça, qu'est-ce qu'on met en place. Et je pense que au niveau des solutions, après il y en a plein, mais moi la prioritaire pour moi ça serait justement de rejouer ça dès la petite enfance en fait, dès l'éducation, pas seulement au niveau de l'éducation nationale, mais aussi l'éducation au sein des familles, et puis tous les rôles extérieurs, c'est-à-dire les associations, quand on est on pratique des activités sportives, en fait, qu'on arrête de faire des petites filles, en gros, des choses fragiles, parce que c'est comme ça qu'on nous élève. Moi, en tout cas, j'ai eu cette sensation-là d'être différente quand même des hommes, même si j'étais dans un modèle d'apparence plutôt égalitaire et plutôt basé dans le respect, et où je pouvais faire ce que je voulais. Mais voilà, où on laisse la place aux filles de faire ce qu'elles ont envie de faire, et même si elles ont envie d'aller faire du bâtiment, mais qu'on leur dise pas non, il faut que tu repartes.
Tu vas te casser un ongle.
Voilà, c'est ça, tu vas te casser un ongle, et ça me fait penser d'ailleurs à une anecdote, je sais plus, c'était hier où j'étais dans la rue. En gros, il y avait une maman qui marchait avec sa fille et son fils, et elle parlait, elle disait à sa fille, remonte sur le trottoir, etc. Enfin voilà, c'est dangereux, et le petit garçon, elle lui a rien dit, quoi. Il restait sur la route. Donc voilà, c'est l'idée que, en gros, mon Dieu, on va mourir si on ne fait pas attention, quoi.
Et le corollaire de ça, c'est aussi d'élever les petits garçons dans une notion du danger, de l'affrontement.
Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ce truc, cette espèce de, encore une fois, de deux extrêmes qu'il faudrait juste relier et rebalancer, quoi, tout simplement. Et je vois bien aussi dans la façon dans laquelle j'ai été éduquée, on m'a toujours dit, par exemple, fais attention, couvre-toi, sors pas comme ça. Enfin, tout ce genre de petits détails, en fait, qui...
C'est apprendre aux filles à se protéger plutôt que d'apprendre aux garçons à respecter les femmes.
C'est ça, en fait, mais qui, au final, sont des petits détails, parce qu'il y a énormément de filles, je veux dire, qui connaissent ça dans leur éducation. C'est des petits pics qui peuvent apparaître comme bienveillants au début, mais au final, ça va avoir un réel impact sur notre vie quotidienne, parce que moi, pendant très longtemps, j'avais appris qu'il fallait pas que je sorte après telle heure, et je ne sortais pas. Enfin, vraiment, c'est pas que j'avais pas envie de sortir, c'est juste qu'on m'avait appris qu'il fallait pas sortir, du coup, je sortais pas. Et après ça, je l'ai déconstruit toute seule, en me rendant compte que voilà, ça changeait rien que je sorte à 23h, que je sorte à...
Malheureusement.
Enfin, voilà quoi, je veux dire...
Je rebondis sur ce que disait ton directeur tout à l'heure, qui disait face à cet intervenant, je sais que tu sais, mais fais comme si tu savais pas. Est-ce que tu penses qu'il t'aurait dit ça si ça avait été une femme en face de toi ?
Ça, c'est une bonne question. Je dirais que non. Mais après, c'est difficile. Enfin, c'est vraiment difficile à savoir, je pense. Je dirais que non. Mais après, c'est vrai que je pense que cette phrase-là, en fait, elle va au-delà aussi du problème... féministe en soi, où là moi je me suis sentie un peu déconsidérée en tant que femme, mais c'est aussi un problème journalistique, je pense, de comment est-ce qu'on va poser notre savoir dans une interview, justement. est-ce qu'on fait le choix de rester dans la neutralité et de faire en sorte que l'intervenant, en gros, déballe en fait son savoir, ou est-ce que vraiment on est dans une volonté de remettre en question les savoirs? Donc voilà, enfin, je pense que ça pose un double débat, mais en tout cas, oui, je crois que ça aurait été... Enfin, il ne m'aurait pas dit ça si c'était une femme, quoi. Ça m'étonnerait. Hein,
et est-ce qu'il t'a dit ça parce que toi, t'étais une femme? Est-ce que tu penses qu'il a pu avoir ou qu'il aurait pu avoir cette réflexion sur un de ces journalistes hommes?
J'ai pas l'impression. Franchement, j'ai pas l'impression. Ouais. Après, je crois que c'est... Là, pour l'instant, j'ai pas d'argument ou de preuve. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu, de toute façon, que... Il y avait une volonté aussi de contrôle. Et ça, encore une fois, ça se joue beaucoup dans le journalisme. C'est qu'on se rend compte que très souvent, c'est des... Comme je le disais, c'est des femmes qui vont porter une parole, mais au-dessus, il va y avoir un homme, et c'est l'homme qui va contrôler l'image de la femme ou la parole médiatique. Donc, au final, c'est pas une parole qui est complètement subjective, puisqu'elle a été modifiée en amont aussi par un homme. Après voilà, ça, ce conducteur, on l'avait construit ensemble à plusieurs, donc je veux dire, c'était un travail collectif, parce que le journalisme c'est ça, hein, c'est un travail d'équipe, faut pas se mentir, mais je pense qu'effectivement il y a plus une tendance de la part des femmes à se dire je vais essayer de faire en sorte que mon avis se concilie le plus possible aux hommes, et donc de rester dans le consensus, quoi.
Ok. Et du coup, toi, quand tu rentres dans le monde journalistique, tu t'attends à trouver quoi?
Alors, je m'attendais à ce que ça soit une sorte d'aventure comme ça, parce qu'on est constamment dans la nouveauté, c'est peu routinier comme activité, on teste plein de choses, on essaie plein de choses, enfin, c'est super intéressant. Donc ça, c'est plutôt le côté positif, je m'attendais pas à ça. Par contre, encore une fois, je m'attendais pas au jeu de pouvoir, mais là, sans forcément que ce soit une question d'inégalité homme-femme, je m'attendais pas, même au sein d'une petite structure, qu'il y ait autant de jeu de pouvoir et de volonté d'imposer en fait sa pensée, son opinion et en fait sa ligne éditoriale, quoi, au fond. J'ai rencontré, on va dire, une femme plutôt misogyne, au contraire des hommes plutôt féministes, et qui me laissait aussi la parole. Donc, enfin, il n'y a pas de règles par rapport à ça, mais effectivement, c'est un milieu où il faut s'accrocher, je pense. Il faut être assez réactif et il faut avoir une certaine force intérieure et pas lâcher, quoi. Parce que c'est souvent ça, en fait, il faut pas lâcher, il faut croire en ce qu'on fait. Mais c'est pas évident tout le temps, quoi. On se prend des refus, on se prend des claques en pleine gueule, parce que on n'est qu'une toute petite structure, il y a des grosses structures qui n'ont pas envie forcément que on les mette en lien avec ce qu'on est en train de faire. Donc
c'est plus dur pour une femme d'être journaliste que pour un homme?
Moi, je dirais que oui. Mais de mon expérience, j'en ai pas encore discuté vraiment avec des journalistes hommes qui exercent l'activité depuis longtemps. Je pense qu'ils rencontrent d'autres difficultés forcément que nous on n'a pas, après lesquels avoir avec eux directement. Mais en tout cas, oui, pour s'imposer, moi j'ai très souvent des difficultés, quoi. C'est clair. Faut toujours que je me dise, Anna, tu es légitime de faire ce que tu es en train de faire. Enfin, t'as le droit, et c'est pas grave si tu te trompes, c'est pas grave si tu fais des erreurs, c'est pas grave si tu changes plusieurs fois d'avis. Tout va bien, quoi.
Un peu comme si le fait de faire une erreur, ça coûtait plus cher quand tu es une femme que quand tu es un homme.
Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce truc-là, ou même des fois, moi, je me rendais compte, quand on faisait le conducteur, par exemple, que j'avais affirmé quelque chose, et en fait, au final, je me rendais compte que c'était pas vrai ce que j'avais affirmé, et je m'en voulais. Vraiment, pendant longtemps, je m'en voulais, je me disais, mon Dieu, mais pourquoi j'ai pas plus cherché, pourquoi j'ai pas plus fait attention à mes sources. Et souvent, c'était des hommes qui me faisaient la réflexion que mes recherches, en gros, étaient pas assez approfondies.
Et quelle solution, toi, tu verrais, dont tu as parlé tout à l'heure, dans l'éducation, à l'école, dans les familles, dans la société d'une manière générale, mais concrètement, entre guillemets, pour les femmes comme toi, dans l'éducation, malheureusement, elle est faite, et les hommes avec lesquels je travaille, elle est faite aussi. Du coup, pour des jeunes femmes, ou pas jeunes d'ailleurs, pour des femmes qui sont dans le monde journalistique en ce moment et qui ont du mal à avancer, qui ont du mal à se sentir légitimes, qui ont du mal à affronter ces obstacles.
Moi, je dirais, c'est en parler avec d'autres femmes journalistes déjà. Enfin, moi, c'est ce qui fait que je me sens un peu mieux déjà par rapport à ça, c'est de voir que je suis pas toute seule. Et aussi, continuer à discuter avec des hommes de ce problème-là, C'est-à-dire que bon, je suis complètement d'accord pour les groupes mixtes et les groupes non mixtes, enfin dans le débat féministe, mais enfin, je me suis rendu compte que en discutant longtemps avec des hommes, notamment avec des amis, on peut déconstruire quand même certaines choses, notamment parce que quand on est dans une position d'expérience et de vécu, en fait la personne va plus nous écouter. Quand je discutais avec un ami de mon vécu en tant que journaliste, je me suis rendu compte que même s'il avait des positions certes assez tranchées avec lesquelles j'étais pas du tout d'accord, il m'écoutait quand même plus parce que j'avais vécu telle ou telle chose. Et donc je crois que c'est vraiment ça en fait, c'est que pendant très longtemps les hommes en fait nous ont éjectés des sphères politiques, des sphères de pouvoir, et nous ont culpabilisés. Et nous, il faut absolument pas qu'on reproduise ça en fait. Parce qu'en gros, si on fait le choix de rester dans un débat entre nous, on reproduit ça, c'est-à-dire qu'on repart dans cette espèce de culpabilisation, on sort, enfin imaginons le modèle à l'extrême, on sort les hommes des sphères politiques, et au final on reste dans cette espèce d'exclusion de genre et on n'avance pas quoi. Du coup, du fait d'en parler, du fait de rester calme aussi pendant le débat, et de poser les contradictions en fait des hommes, en tout cas avec qui j'ai discuté, on voit que c'est juste des peurs. C'est juste des peurs du changement, c'est juste des peurs d'être incompris. Enfin, il y a beaucoup de ça, souvent on croit que c'est une pensée réelle, alors certains, il y a un peu des cons quoi, mais... ou des masculinistes extrémistes. mais là en tout cas, enfin moi dans les discussions que j'ai eues, c'est juste des peurs qu'il faut qu'on mette à plat, et il faut rassurer en fait les hommes. Je crois que c'est ça quoi. Mmh. C'est juste leur dire non, ça va pas te... Enfin, on va pas t'enlever quelque chose de fondamental en toi. Il faut juste aussi que tu te questionnes sur qu'est-ce qui construit ton identité, qu'est-ce qui fait que tu es comme ça, et que bah, tu pourrais peut-être être d'une autre manière et que tu serais plus épanouie aussi comme ça quoi. Mmh. Donc pour moi, ça serait la deuxième solution. C'est pour l'instant ce que j'essaie de mettre en place dans mon quotidien. Après... des solutions à l'échelle gouvernementale, c'est déjà en train de se mettre en place là actuellement. C'est pas terminé, mais ouais, il y a du boulot. Mais ça serait bien peut-être de, je sais pas, créer des collectifs de journalistes femmes pour qu'il y ait cette proposition d'idées et d'actions, et voir vers où, enfin jusqu'où on pourrait le mener.
Dans le podcast précédent, on a fait une revue du bouquin de Marlène Schiappa où elle parle de la presse. Et ce qu'elle appelle le quatrième pouvoir. Alors on va lui reconnaître le mérite d'avoir recontextualisé l'importance pour la démocratie du travail journalistique quand même, de la liberté de la presse en tout cas. Mais voilà, elle mentionne une liste interminable d'insultes dont elle a été victime par la presse de tous bords d'ailleurs, avec peut-être une mention pour l'extrême droite, mais pas que. De la CGT aussi d'ailleurs, dans le contexte hors presse, dans le contexte syndical. Est-ce que tu crois que c'est assez périphérique, ces comportements-là, ou...
Ouais, je pense que, bah, comme je disais, on a beau se dire de tel ou tel parti politique, ou de telle orientation comme l'université qui se prétend être de gauche, mais au final qui ne présente que des journalistes hommes, c'est un peu cette idée-là, c'est que on va toujours, elle le mentionne, Marlène Schiappa, chez Ruquier, mais qu'on va toujours nous rappeler qu'on est des femmes avant d'être des personnes, en fait, ça c'est quotidien. Mmh. Et c'est vrai que très souvent, moi j'ai l'impression d'être bloquée dans cette position de journaliste ou future journaliste du moins, et ma position de femme, c'est-à-dire difficulté à concilier les deux, et que souvent je me sens mieux, j'ai remarqué quand je suis la moins féminine possible, la moins en pleine possession de mes attributs en gros, c'est-à-dire avec même un look très sobre, et je vais me sentir plus écoutée quand je suis comme ça, que du coup quand je suis, je dis exactement la même chose, mais que voilà, bah, je sais pas, je vais avoir un décolleté, que je vais avoir, c'est des petits détails comme ça, mais en fait ça se sent.
Qui te ramène plutôt à ta condition de corps féminin,
voilà, de corps féminin
qu'un cerveau de journaliste,
qu'une personne et qu'un cerveau et de quelqu'un qui a juste envie de, en fait voilà, de faire son travail. Quoi. Donc ça ouais, pour moi c'est plutôt périphérique.
Pour recontextualiser, quand tu parles de Marlène Schiappa chez Ruquier, on parle de l'émission du 30 juin, il me semble, en tout cas de juin 2018, où donc elle est l'invitée politique de l'émission On n'est pas couché, chez Laurent Ruquier, face à Yann Moix et à Christine Angot, qui lui a d'ailleurs valu une altercation avec monsieur Jean-Claude Van Damme,
qui a fait le tour du net et qui a été vu je sais plus combien de fois d'ailleurs.
Qui a je trouve été assez bien géré par la ministre, mais bon, qui soulève quand même des schémas encore bien bien présents qui sont quand même difficiles à démanteler.
Ça c'est clair, hein. C'est pour ça que je dis qu'il y a encore du travail et que j'ai pas du tout l'impression que ça va changer rapidement, quoi. Enfin, c'est aussi pour ça que c'est un combat quotidien. Et ce qui est assez fou, c'est que les médias aussi qui lui ont fait des reproches, donc tu disais qu'il y avait des médias d'extrême droite, mais pas que. C'est-à-dire que même des médias qui vont se revendiquer parfois de positions féministes vont quand même faire ce reproche-là. Et en fait, c'est ça. On va vraiment dans le non-sens complet, quoi. Ce que je crains aussi, et c'est pour ça que je dis que je pense que ça va être compliqué, j'ai un peu peur que ça soit une tendance, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire, c'est une mode d'être féministe, c'est cool. Y a des journalistes, enfin des hommes féministes, on se rallie à la cause, au féminisme, quoi. Et en fait, j'ai peur que ça dure pas. Et que ça soit un truc un peu comme, comme l'actualité, en fait. C'est-à-dire qu'on parle d'un sujet, puis on passe à un autre, et on oublie complètement ce qui s'est passé avant. Et donc, c'est plutôt ça, c'est comment est-ce qu'on va faire pour maintenir le débat sur la durée et pas lâcher la grappe. Moi, c'est pour une question à laquelle j'ai pas de réponse encore, mais où on se doit un peu toutes d'y réfléchir et de proposer des actions.
Ouais, tu parles d'un potentiel phénomène de mode, alors qu'il y a quelques années, c'était plutôt pas la mode de dire qu'on était féministe, c'était un peu l'hystérique dégénérée.
La radicale.
Beaucoup affublée du nom des fémènes, d'ailleurs, comme si les fémènes étaient aussi toutes des hystériques dégénérées. Et ça me fait penser au film Sous les jupes des filles, qui est sorti en 2014-2015, je ne sais plus. Et Audrey Dana, la réalisatrice, à chaque fois qu'on lui posait la question, est-ce que c'est un film féministe, tu sentais qu'elle était obligée de dire, non, vous inquiétez pas, non, c'est pas féministe, paniquez pas, etc. Comme si, féministe est devenu un peu un gros mot de l'hystérique qui gueule partout et qui est contente de rien, quoi.
Ça, encore une fois, c'est un préjugé que j'ai essayé de déconstruire avec un des amis à moi, de lui dire non, une féministe c'est pas ce que tu crois, c'est à dire une femme qui se plaint, une femme qui crie, une femme qui fait que elle a le droit d'ailleurs de le faire, en plus c'est ça le pire, quoi. C'est qu'on en vient des fois à essayer nous-mêmes d'expliquer certains comportements de femmes alors qu'en soi ils sont totalement légitimes, mais le cas des fémènes par exemple. J'en discutais avec cette amie, elle me disait je comprends pas du tout, elles sont complètement folles, elles servent à quoi, elles montrent leur nichon, enfin en gros voilà, c'était sa compréhension du mouvement. Et c'est vrai qu'une fois qu'on pose les choses à plat et que je dis non, mais en fait tu sais, c'est pour expliquer que pendant ce match de foot, le foot est surreprésenté par les hommes, il n'y a pas de femmes, on voit jamais le mondial, de femmes de foot, quoi,
féminin
en gros. Et que c'était leur manière à elles de montrer qu'ils en avaient marre, quoi. Et c'est vrai que, c'est des simples explications comme ça qui vont faire que, ah oui, c'est vrai, ok, je l'avais pas vu comme ça, du coup. Donc c'est tout con, il faut arriver à pouvoir réagir à chaque fois qu'il y a comme ça un stéréotype qui est posé sur la table, tout de suite être en mesure de réagir. Enfin, pour moi, c'est comme ça qu'on va permettre à la société de se réégaliser à nouveau.
Et ça me fait penser quand tu dis le stéréotype de la féministe qui est une femme qui s'énerve, qui gueule, etc. Je rebondis là-dessus parce qu'on en a déjà parlé toutes les deux, du fait qu'un homme qui commence à s'énerver, qui commence à gueuler, entre guillemets, ça impose sa virilité, son autorité, etc. Alors qu'une femme qui se met à gueuler, c'est une hystérique, quoi.
C'est une folle dingue.
C'est une folle dingue. Alors, on a parlé dans le premier podcast de l'origine du mot, en tout cas hystérique, hystéria, utérus en grec. On doit beaucoup à Freud, malgré mes années d'études à ses côtés, j'ai au moins ça à lui reprocher. Mais il y a cette notion que la voix des femmes pose problème. Et plus elle devient masculine, entre guillemets, c'est-à-dire forte dans l'énervement, etc., et plus il faut à tout prix aller la décrédibiliser en la traitant d'hystérique, de camionneuse, de fémène, de je sais pas quoi.
Je pense que c'est vraiment après ce qui dérange les hommes, c'est que du coup, on va, on creuse le débat tellement loin qu'on va encore une fois remettre en question leur identité, leur construction qui s'est fait sur des années, et la nôtre aussi d'ailleurs, ça s'est fait sur des millions d'années. Enfin, je veux dire, c'est pas juste on se sent femme parce qu'on est femme, c'est que ça remonte bien plus loin. Mais oui, en fait, c'est des codes masculins. Et en fait, il faudrait peut-être arrêter aussi de dire c'est des codes masculins ou des codes féminins, ou de dire que telle chose est masculine, telle chose est féminine.
Puis c'est vrai que c'est des constructions qui valident aussi des modèles, t'en as parlé un tout petit peu tout à l'heure dans le monde journalistique, mais qui valident des modèles cisgenres aussi, et dans lesquels ça exclut nécessairement les transgenres et transsexuels du débat, parce que finalement, si moi je suis un homme qui a voulu devenir une femme, alors mes attributs sont féminins, mais on va pas me le considérer puisque mon sexe biologique n'est pas celui d'une femme. Enfin bon, ça valide aussi un modèle dominant qui est le modèle cisgenre.
Complètement. Et puis je me dis qu'aussi la télé, les médias, c'est censé représenter la population, normalement. Après, ça reste la télé, donc c'est un autre domaine que la presse et la radio. Mais je veux dire, combien il y a de lesbiennes, combien il y a de trans en France, je veux dire, c'est énorme, quoi. Et forcément qu'après, il y a déjà une partie du public qui se perd du fait de ne pas avoir de personne dans laquelle on peut se reconnaître. Moi, en tant que petite fille, j'aurais bien aimé pouvoir me reconnaître dans une journaliste, me dire, ah bah, vraiment, je sens qu'elle me correspond, enfin, je sens qu'il y a quelque chose que j'aimerais lui ressembler ou que je lui ressemble un peu et je voudrais faire pareil qu'elle, quoi.
T'as l'impression que la télé montre plutôt, comme on a dit au début, des journalistes plantes vertes, entre guillemets, c'est-à-dire plutôt bonnes potiches.
Mais complètement. Enfin, il y a, bon, bien sûr, enfin, je dis pas qu'elles sont pas intelligentes, hein.
Aussi,
je fais pas forcément le lien, mais c'est vrai, quelque chose de, ouais, enfin, en plus, c'est déjà des personnes qui ont été soit mannequins, enfin, des journalistes qui ont été soit mannequins, soit Miss Météo, soit qui ont un passif déjà dans le monde de la mode, donc déjà, enfin, pour moi ça pose aussi problème. Déjà, ça veut dire en gros, pourquoi est-ce qu'on te prend? Est-ce qu'on te prend pour ta beauté et ton intelligence, ou est-ce qu'on t'accepte juste pour ta beauté? Enfin bon, ça pose plein d'autres questions, mais ouais, en fait,
bah déjà ça doit être très pénible pour elles d'être, enfin j'imagine, en fait, où on peut parler à leur place, mais on imagine que ça puisse être pénible pour elle, en tout cas, d'être cantonnée justement à ce statut de bah, je suis une belle femme et du coup on me voit qu'à travers le prisme de ma beauté. Et effectivement, ça donne pas beaucoup de modèles à de jeunes filles qui se reconnaissent pas forcément là-dedans. T'as un exemple de femme journaliste que tu retrouves pas, toi, à la télé, du coup, que tu retrouves pas dans ce modèle-là?
Il y a comment elle s'appelle, Aude Lancelin, je crois. Oui, c'est ça, qui fait partie du média qui s'appelle Le Média. Et je trouve qu'il se situe assez bien, que je considère comme étant une femme super intéressante, et qui rentre pas dans ces deux modèles-là. C'est-à-dire, on sent qu'elle est elle-même, mais elle correspond pas à une catégorie. Après, moi, j'ai vraiment grossi les traits, hein, par rapport à ces deux modèles que je présente, mais par rapport... je trouve que toutes les chroniqueuses, très souvent, ce qu'on voit, je veux dire, ce qu'on voit, touche pas à mon poste, elles sont considérées officiellement comme en fait journalistes, mais au final, ce qu'elles font, c'est absolument pas du journalisme. Donc c'est ça aussi, c'est que d'une certaine manière, j'ai l'impression que des fois, on décrédibilise quand même notre propre parole à travers l'image qu'on va donner. Je veux dire, quand je pense à Enora Malagré, je veux dire, moi, ça me déprime, quoi, quand je vois le... ce qu'elles disent et l'image qu'elles représentent, ou elles vont faire du rentre-dedans et tout, mais ça va être tout le temps dans la provoque, ça va être tout le temps dans le buzz, dans le scoop. Je veux dire, est-ce que c'est vraiment l'objectif final, quoi, de juste faire de la vente, quoi, en fait?
Ouais, après c'est le débat de la télé,
c'est
à
ça.
Quel point l'audimat a la main sur la qualité journalistique des rendus télévisuels. Encore un autre débat.
Du coup, merci de nous avoir écoutés.
Merci de nous avoir écoutés. Merci à toi d'être venue et d'avoir pris tout ce temps-là pour
Merci, Laura.
Pour partager ton expérience.